Bon, on va prendre Yuma. Yuma. On va ouvrir DAF. On est au 8e Pérec maintenant. Aïn Gimel Amoud Bet. J'arrive une seconde. Aïn Gimel Amoud Bet. Yuma, la Mishnah. Alors, Yom HaKippourim, on commence. La Mishnah. Yom HaKippourim, Asur Ba'achila. Quoi?
J'avais juste une petite question par rapport à. Vous avez parlé des korbanot la semaine dernière. Vous avez dit que, comment dire, c'était pour faire kapara de la personne aussi. Il fallait qu'on ressente comme si c'était nous qu'on était tués. Je voulais savoir, j'ai entendu aussi que quand on fait un korban, à chaque fois qu'on fait un korban, il y a la neshama d'un rachat qui monte. Voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez.
Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Ça veut dire quoi, un échama de rachat qui monte? J'ai pas compris. Ça veut dire
À
quoi?
chaque fois qu'il y a un korban d'une personne qui est faite, j'ai entendu qu'il y avait la neshama d'une personne racha qui remontait là-haut. C'est-à-dire
Je comprends pas beaucoup.
qui était. Ah, je ne sais pas, non.
Je comprends pas de quoi vous parlez. Donc, c'est quoi la neshama de rachat qui monte? Ou
Non,
qui?
une neshama qui est bloquée, comme quand on fait Birkat Ha'ilanot, on débloque la neshama de quelqu'un qui est bloqué. Et j'ai entendu comme ça, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez.
Mais pensez de quoi? Je
Que...
comprends pas vos paroles. Expliquez-vous.
ne peux pas expliquer mieux, Mechila, je ne sais pas. J'ai entendu comme ça, je voulais savoir. Quand on fait un korban, quelqu'un il amène un korban, on va dire, ce n'est
Oui,
pas pour tuer la bête comme ça.
oui. Peut-être
Et à
vous
chaque
voulez
fois que
dire.
la bête elle est tuée, la bête. Mechila?
On vous entend mal.
Ah, je veux dire, quand la bête elle est tuée, ce n'est pas pour le plaisir de tuer la bête, c'est parce que aussi il y a une neshama d'un rachat qui est bloqué ici qui remonte vers Hachem. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça.
En tout cas, quand vous dites que ce n'est pas pour le plaisir de tuer, ça, je suis d'accord avec vous.
Bien sûr, bien sûr.
Maintenant, quand vous parlez de rachat qui monte, peut-être vous voulez dire comme ça que dans chaque homme, le chemin de l'homme est composé par des millions de détails, des millions d'éléments. Et quand on fait une mitzvah, alors il y a une partie de Neshama, elle se remplit par un Dabar Shebekdusha. Et quand on fait une Avera, il y a une partie de Neshama qui est remplie de Touma. Et quand l'homme il fait le Korban, en vérité, il égorge, il fait monter la partie de Racha, il se débarrasse. C'est comme il dit à Kadosh Baruch Hu, ça y est, je me suis débarrassé. C'est comme quelqu'un qui va avoir un virus et il prend d'antibiotiques, il va chasser ce virus. Le korban, c'est la partie kadosh qui est dans le corps. Il monte au ciel, la partie qui est kadosh qui monte au ciel. Il donne quelque chose de lui. Et au même moment, il se débarrasse de ce virus. D'un parti dans sa neshama qui est rachat. Il l'a foutu quelque part, donc il y a une partie de Neshama qui est devenue impure, et cette partie de Neshama, elle est égorgée, elle est débarrassée, l'homme, il arrive à se débarrasser. Et donc, c'est le fait que l'homme, il monte vers Hachem, la partie de Kedusha qui monte, donc là, il se débarrasse d'une particule qui n'est pas bonne. Ça, c'est Mistaber, que c'est quelque chose de ce genre. Hein? Et c'est possible que. Au même moment, il y a d'autres forces du mal dans ce monde qui empestent ce monde, que ces forces aussi sont automatiquement, ils s'évaporent, on les débarrasse. Le Corban, il apporte une ruach tahara dans le monde. Il débarrasse les forces du mal qu'il y a dans le monde. Alors, mais on va continuer. Alors, on va fermer là. Voilà. Yom HaKippurim Asur Ba'Achila.
C'est où, Rabbi? Excusez-moi. C'est où? Hein? C'est quelle page? Ah, une gimel, mais où?
Pourquoi tu as mis à verlan ton télévision? Ne te tourne, pourquoi tu tournes tout ça? Alors, reste droit, parce que sinon, ça m'embrouille quand je te regarde. Alors, c'est Yuma, il y a un gimel à Moudbet. Yuma, il y a un gimel à Moudbet. Yom HaKippur, Masur Ba'achila Obishtia. Yom HaKippur, c'est interdit de manger, de boire, ou Berichitza, et de se laver. Ou Besicha, et de se vendre. Qu'est-ce que c'est vendre? Vendre le corps avec de l'huile. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça fait un plaisir pour le corps. C'est quoi? C'est comme boire. C'est quoi l'interdiction de Sicha, Rechitza? On se lave. Ça fait plaisir à qui? À la peau ou à la chair? Ou au sang ou au nerf? À qui ça fait plaisir une?
Ça fait personne. Ça fait plaisir à la personne elle-même.
Oui, je veux bien. Non, mais je demande. Je demande, oui, ça fait plaisir à lui, pas à sa voiture, pas à sa maison. Mais je demande, quelle partie du corps profite de laver? Est-ce que c'est la peau? Est-ce que c'est l'eau chaude? Est-ce que c'est l'eau froide? Quand on dit l'interdiction de se laver, est-ce que c'est seulement quand c'est l'eau chaude ou même l'eau froide? Et il se lave. C'est quand c'est chaud, en été, quand c'est chaud, on rentre dans l'eau, ça fait plaisir. Parce que l'interdiction de se laver ou de manger, bon, c'est le marqué dans la Torah, te une, ve initem et nafshotichem. Vous allez faire souffrir votre corps. Ve initem et nafshotichem. Le nefesh, c'est beaucoup d'explications. Qu'est-ce que c'est le nefesh? Mais ici, le nefesh, ça veut dire les sensations corporelles. Il y a le nefesh, il y a le neshama, il y a la chair. Vinitem et nafshotichem, la Torah, il aurait pu aussi s'exprimer. Vinitem et besarchem, ou vinitem et gufchem. La Torah utilise le mot vinitem et nafshotichem, le nefesh. Et nefesh, c'est un mot qui existe aussi chez les animaux, parce que les fonctions de base de vie, ça veut dire manger, dormir, ça existe chez les animaux aussi, le nefesh behima. Il y a Nefesh Adam, même que les sentiments sont plus raffinés. Chez l'homme, Miyodea, Nefesh Behima, Ola le Mata, Nefesh Adam, Ola le Mala. Mais en tout cas, ça existe Nefesh. Vinitem et Nafshotichem. Le Nefesh, ça veut dire les sentiments de base d'une vie agréable, d'une vie corporelle agréable. Alors, le manger fait plaisir. Et le manger donne aussi la vie à l'homme. Quand la Torah interdit, est-ce qu'elle interdit le fait que ça donne la vie ou c'est le plaisir de manger? Si quelqu'un il va manger sans plaisir, il ne transgresse pas, on verra dans la Gemara, s'il n'a aucun plaisir. Simplement si on s'est rassasi, ça c'est une chakira, on s'est rassasi sans aucun plaisir. Si on va, ça c'est sûr que la nourriture doit passer à travers la gorge. Si ça ne passe pas à travers la gorge, mais par les veines, et par derrière, ou quelqu'un a une machine qui le mange va directement dans l'estomac. Là, il ne transgresse pas Kippour. Donc, il n'y a pas de plaisir dans la Garonne. La Torah n'a pas interdit. Mais le plaisir dans la Garonne lui-même, la Torah n'en a non plus. Il faut une certaine svia. Il faut avaler. Il y a plusieurs parties qui sont indispensables pour que l'homme sera chayav Kippour. Il faut une achila, il faut une hanaat karon, on verra hanat me'av. Bon, on verra dans la Gemara après. En tout cas, ça c'est achila. Maintenant, rechitza, laver. Et qui a plaisir d'un lavage? Est-ce que c'est la peau? Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est le sang qui circule? Ou c'est les nerfs? Les capteurs? Dans la peau, dans la chair, il y a des capteurs qui ressentent un plaisir quand on se lave.
Plusieurs choses.
Quoi?
Plusieurs choses.
Il y a plusieurs choses.
Deux, oui. Trois choses.
Oui, quoi? Qu'est-ce que vous dites?
La peau, ça c'est sûr que ça lui fait du bien. Vous avez dit aussi la peau, le corps, tout. Il y a deux, trois choses, trois, quatre choses qui font du bien de se laver.
Mais quand on dit que ça fait bien, est-ce que c'est dire ça fait bien pour la santé ou ça fait bien pour le plaisir?
Les deux. La santé, et on se sent bien quand on est propre, et même après le lavage.
On se sent bien après le lavage, même avec de l'eau froide. Parce que l'eau froide, si c'est en été, on y va dans l'eau froide, on a un plaisir parce que ça refroidit. Mais maintenant, il y a une autre chose, ça enlève aussi la saleté. Un homme qui se lave en hiver, il n'a pas de plaisir, et ça, c'est froid, ça gèle, ça le gêne, mais ça enlève la saleté. Est-ce que ça aussi, la Torah, elle a interdit Kippour?
Il a un plaisir après.
On verra après dans la Gemara que ceux qui se lavent, pas les chèvres plaisir, mais ils se lèvent pour enlever la saleté, mais mettre ses permis Kippour. Un homme, il a mis la main dans la boue, ou il a mis les pieds dans la boue, et maintenant, il enlève la boue pour être propre, mais pas pour le plaisir. C'est permis. C'est permis, Yom Kippour. La Torah interdit le plaisir. Maintenant, après, la Mishnah nous dit Sicha, oindre. Donc, Sicha, c'est oindre avec de l'huile. Les gens qui se massent avec de l'huile. Donc, la Torah a interdit l'huile ou du vinaigre ou un autre produit. Si quelqu'un va masser ses mains, ses pieds sans aucun produit. La Torah n'a pas interdit Kippour, malgré qu'il doit avoir un plaisir, quelqu'un qui a, ça lui fait plaisir de se masser, ça, la Torah n'a pas interdit Kippour. Elle a interdit seulement si tu mets un produit, parce qu'elle dirait que le produit, c'est comme si le produit, il pénètre dans le corps. On verra après le Navi, la Gemara apporte, le produit, l'huile rentre dans le corps, c'est une certaine manière mangée. Le corps, il s'enrichit avec quelque chose. Donc, si tu
le plaisir de sentir, la Torah ne l'a pas interdit.
Le plaisir de quoi?
Sentir.
De sentir quoi avec le nez? Non, ça, la Torah n'a pas interdit. Ça, ce n'est pas d'avoir seulement masse. Même si c'est une bonne odeur, quelqu'un va sentir une bonne odeur qui va exciter ses neurones dans le cerveau, ce sera archi agréable. La Torah n'a pas... Non, c'est seulement il faut une hana'a gashmi qui rentre dans le corps. Quelque chose de gashmi. Alors, est-ce que l'eau, ça pénètre un petit peu? Est-ce que le sens de rechitza... En vérité, ça c'est vrai que l'eau rentre un petit peu. On est daf yuma daf ein gimel amud bet. Ein gimel amud bet dans la Mishnah. L'eau pénètre aussi, mais quand on se lave, elle pénètre un petit peu dans le corps. Est-ce que c'est ça l'interdiction? Parce que ça pénètre.
Alors, dans ce cas-là, mettre quelque chose sur sa langue sans l'avaler, on a le droit? Je mets un café, mais je ne l'avale pas. J'ai un plaisir du goût du café, mais je n'avale pas. Est-ce que c'est permis, Yom Kippour?
N'importe quoi, Serge, tu dis n'importe quoi là.
Mais c'est toujours quand tu mets sur la langue le café, elle va se forcément mêler avec la salive. Et la salive, si tu le craches, c'est une chose, mais si tu l'avales, t'as forcément avalé quelques trucs. Alors si ça te fait plaisir, alors c'est Khatsi Shi'ur, on verra dans la Gemara après. La salive elle-même, on a le droit d'avaler. Ça, ce n'est pas considéré comme manger, comme boire. Ça, c'est un passouk. La salive, ça s'appelle blia. Bolea. Bolea rox. Ça ne s'appelle pas manger. Ou parce que ça fait partie du corps. Ou parce que c'est la façon normale comment le corps, il fonctionne. Parce que ça, c'est une question. Tous les dynimes de Shabbat, les fonctions naturel du corps. Est-ce que c'est Shayach une melacha de Raïta? Vadaï que non. Le cœur qui bat, ça crée des pulsions électriques. Mais tu dis, c'est pas moi, c'est mon cœur. Et c'est automatique. Mais si tu vas courir, tu vas faire augmenter le débit de cœur. Et ça va peut-être augmenter de, même des trucs électriques. Je suis pas médecin, mais quand même, tout ça, ce qui est naturel, c'est pas une guédère malacha. Malacha, c'est un travail qu'un homme y fait. Mais c'est en dehors des choses de la fonction naturelle. La question est, quand quelqu'un il va mettre un halter sur son poule et ça va écrire. Et Shabbat, le cœur, il va... Non, pas qu'il mette Shabbat, il met Erev Shabbat. Un homme, il met un halter Erev Shabbat. Et pendant tout le Shabbat, il a sur lui et ça écrit. Et ça crée des lumières, etc. Motsé Shabbat, il l'enlève, il a tout un film de tout son rythme cardiaque. Alors, est-ce que je dis que l'homme, il a fait une melacha, il a écrit pendant Shabbat? Ou est-ce que je dis non, c'est le cœur bat et le battement du cœur, c'est un geste naturel. Malgré que, on peut dire parce qu'il ne peut rien faire contre, c'est pas vrai. On peut enlever l'holter, tu ne veux pas dire, je ne peux pas arrêter le cœur. Non, tu ne demandes pas d'arrêter le cœur, mais tu peux enlever l'holter. Non, mais je ne veux pas enlever, je veux le laisser.
Il a écrit.
Quoi?
Et si on prend un stylo, on le met dans la bouche et on écrit.
On met un stylo dans la bouche et on écrit. Alors, Hakotev Bepif, ça c'est assour d'écrire avec la bouche. Seulement, on ne sera pas chayav parce que c'est chelo que derrière. Parce que ce n'est pas la coutume. On écrit normalement le stylo dans la main, pas dans la bouche. Donc, on n'est pas tôt parce que c'est chelo que derrière, mais c'est une melacha. Seulement, c'est une melacha chelo que derrière. Parce que tu écris avec la. Mais un homme, il parle. Si on va dire la parole de l'homme, il met une machine à côté de lui, il met un iPhone et il parle et c'est enregistré. Alors, est-ce que je vais dire, mais c'est l'action naturelle de l'homme, de parler, mais tu mets une machine à côté. C'est vadaï, c'est assour. C'est ça, tous les malachot comme ça. Tous les malachot sont des choses naturelles. Mais on parle... Quand c'est un halter et le cœur, il circule et ça circule tout seul. Non, mais le cœur circule tout seul, mais quand je fais un effort, je fais augmenter le débit du cœur. Donc, je fais que l'halter, il enregistre plus. Est-ce que ça, c'est comparable à ce qui est écrit avec le stylo dans la bouche? Alors, le stylo dans la bouche, c'est chelo que derrière. On n'écrit pas comme ça normalement. Chez l'halter, c'est justement celui. C'est un halter, justement, c'est lui le derrière d'écrire comme ça. C'est comme quelqu'un va sortir avec un bonbon dans la bouche Shabbat. Il est chayav, c'est marqué de Mishnah. Hamotzi ochlin bepiv. Il est chayav. Hamotzi, un homme qui fait sortir un objet dans la bouche Shabbat, il est pas tout. Pourquoi? Parce que c'est pas le derrière. On transporte pas les objets dans la bouche. Mais le bonbon, justement, on transporte lui les bonbons dans la bouche. Donc, Motsi Ochlin, il n'est pas tour. Donc, si quelqu'un met un stylo dans la bouche Shabbat et il écrit, ce n'est pas le derrière, mais l'alter, c'est lui le derrière. Seulement, toute la question, elle est, mais ça se fait tout seul. Le cœur, il fait tout seul. Donc, le cœur, il va enregistrer. Est-ce qu'il y a une malacha dedans ou pas? Je ne parle pas de Pekouach Nefesh. Je vais dire Nefesh, tout est mouta. On parle sans Pekouach Nefesh. Quelqu'un qui ne peut pas dormir. Ben, normalement, il met une machine pour dormir parce qu'il a de l'apnée. Alors, il met une machine et donc on met le masque à gaz sur la bouche. Et quand il respire, la machine se met en marche. Et quand il arrête de respirer, ça... Donc, il y a tout le temps l'ichora, il y a tout le temps des manipulations électriques. Alors, est-ce que c'est assour ou moutard?
Ah bon, moi je suis dans ce cas-là parce que depuis 2008 je suis appareillé avec la machine parce que je faisais des apnées très sévères et la machine que j'ai elle est comme vous dites, c'est-à-dire dès que je la pose elle se met en marche toute seule, dès que je l'enlève elle s'arrête toute seule, voyez. Mais ça je peux parce que si je dors pas avec ça c'est comme si j'avais pas dormi et je suis plus fatigué, comme si j'avais passé une nuit blanche.
Non, moi je ne parle pas maintenant vis-à-vis est-ce que c'est permis ou interdit à titre de. Parce que c'est une question de santé, etc. Mais je ne rentre pas sur le bon. Etzem, quelqu'un il va l'utiliser pas parce qu'il a
Aujourd'hui,
besoin. Quoi?
Aujourd'hui, on voit un écran de téléphone, il se met en route. Il voit notre visage, il se met en route.
Non, mais ça, c'est quand il est allumé.
Quand tu lui mets ton visage devant.
Oui, c'est quand il est allumé, mais de façon Shabbat, il faut l'éteindre, le téléphone.
Oui, mais on parle d'un cas de figure.
Parce que si on a la kavana de le faire marcher, si on n'a pas la kavana de faire marcher, une chose. Mais si on n'a pas la kavana de faire marcher.
Non mais Rav Brand, pour revenir à mon appareil, c'est sûr que si ce n'était pas pour la santé, je n'utiliserais pas. Vous comprenez?
Oui. Alors, on va continuer la Mishnah. Ubesicha, dans coindre. Dans coindre, si on met de l'huile, la question est-ce que c'est simplement le plaisir de faire rentrer l'huile ou l'huile qu'on fait rentrer dans le corps crée une certaine satisfaction que le corps profite et l'homme il ressent qu'il profite. Il a des capteurs qui capte plaisir.
C'est pas assour Shabbat déjà?
Je n'ai pas entendu.
C'est pas assour Shabbat déjà de mettre de l'huile?
Pourquoi c'est assour de mettre de l'huile Shabbat?
C'est pas mes maréas?
Non, sur de l'huile, il n'y a pas mes maréas. La Mishnah dit dans Masechet Shabbat, on a le droit de se vendre avec
pas,
de l'huile. C'est
pas guérir.
Ça, c'est quand l'huile, c'est un guérissant. Mais si l'huile, c'est pas de guérissant, si c'est l'huile de plaisir. Si l'huile, c'est pour guérir, ça inclut dans l'exéra Mishom Shrikat Samemanim. Mais si c'est pas pour guérir, si c'est pour c'est le plaisir, pourquoi, alors, c'est permis Shabbat, pour le plaisir.
Pour arranger la peau. C'est pour guérir la peau.
Non, pas pour guérir, pour le plaisir. Le Ta'anouk.
Là, c'est Minatora, là.
Ah, toi, tu poses une kushya. Est-ce que Wendre Kippour ou la Rechitza, est-ce que c'est Asur Minatora ou Midrabanan? Alors là, tu ouvres la grande Sugya de Rambam avec la Ran, Tosvot. Est-ce que tous les dinim, à part manger, boire, la Mishnah nous dit manger, boire, ça va d'ailleurs Asur Minatora, on est Chayav Karet. Et pour les autres choses, laver, se vendre, on n'est pas Chayav Karet, dit la Mishnah. Est-ce que c'est Asur Minatora ou est-ce que c'est Asur Midrabanan? C'est un grand machloket rishonim. Alors, il y a des preuves à gauche, il y a des preuves à droite, et chacun est obligé de reprendre les couchures de compte qu'on compte contre lui. On va aborder encore, d'abord on va voir un petit peu, et après on va aborder cette question, c'est les fondamentales. Alors on continue. Donc, Sikha, c'est Wendre, ou Bininat, à sandal. Et se chausser avec un sandal. Pourquoi la Mishnah parle d'un sandal? Elle aurait pu aussi parler d'une chaussure, Na'alayim. Elle aurait pu dire Ni'ilat, Ni'ilat, Min'alim. Il y a Min'al, et il y a sandal. Min'al, c'est la chaussure. Il s'appelle Min'al, Milashon Na'ul. Na'ul, c'est fermé, que le pied, il est enfermé dans la chaussure. Une chaussure qui enferme le pied, on appelle Na'al. Béchal, Na'al Kha, Me'al Raglecha. Mais la Mishnah utilise le mot sandal. Sandal, c'est quoi? Est-ce que c'est un mot en hébreu ou c'est un mot plutôt araméen? Sandal. Les sandales, comme on dit aujourd'hui, c'est des chaussures ouvertes. Pourquoi la Mishnah nous parle des Nilat sandal? Pourquoi il ne dit pas Nilat Na'al? Ni'ilat na'al, ni'ilat sandal, mais un peu bizarre la Mishnah. La majorité des gens, bon, je ne sais pas la majorité des gens, en été, on y va en sandal. Ah, peut-être Kippour, ça ne fait pas. Et de l'été, il n'a pas encore commencé la pluie. Ah, en hiver, on marche avec des na'al fermés parce qu'il y a la pluie. Ah, en été, on marche avec des sandales, c'est plus agréable. Et Kippour, c'est avant Sukkot ou après Sukkot? Pour
hein? Avant Sukkot.
Avant, oui, t'as raison. En général, c'est plutôt avant Sukkot. Et nous faisons la prière de Geshem seulement Shmini Atzeret, et la pluie arrive deux semaines après, donc ça fait partie de l'été. On était en marche avec Sandal. Alors d'accord, on a compris le Mishnah.
Une question, est-ce qu'on a le droit de voir, par exemple, si vous avez un arbre fruitier dans votre jardin, est-ce qu'on a le droit de faire Birkat Ilanot ou non, il faut vraiment le voir de vrai? Parce qu'on ne peut pas sortir là.
Vous habitez où, vous?
Moi, dans un appartement.
Et vous pouvez pas sortir?
Ben, il faut aller loin. Enfin, j'ai pas à proximité. Quoi.
On peut faire Birkat Ilanot même après. On peut faire en Iyar aussi, en Sivan aussi. On peut faire même quand il n'y a pas des fleurs. Même quand il y a, on peut faire beaucoup plus tard aussi.
Donc, si toutefois on est, on peut pas le faire en Nissan, on peut le faire après.
Oui, oui.
D'accord. Ok.
Alors, Ubinat Hassandal. Alors, Ubetaj Mishamita, il vit avec sa femme, tout ça, ça c'est interdit. Alors, donc, la Achila Vishtia, c'est Badaï Asomina Torah, le reste, c'est la Shela, si c'est Minato Midrabanan. Vamelech et le roi, Vakala et la nouvelle mariée, Yirchatsuat Pinehem, ils ont le droit de laver leur visage qui pour. Il est important pour le roi de laver les visages. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha que le roi, il doit se présenter d'une manière belle. Et la kala, la mariée, pour qu'elle soit bien présentable à son mari, jusqu'à combien de temps on s'appelle kala? Les 30 jours après le mariage. Premier 30 jours après le mariage, on s'appelle kala. Donc les rois et la kala peuvent se laver les visages maintenant.
Après 30 jours, c'est pas qu'elle soit belle devant son mari.
Après 30 jours, elle va devenir religieuse. Elle va respecter les kippour comme tous les juifs. Donc, si elle se mariait le 9 Elul, donc le 9 Tishri, ça se termine les 30 jours, elle va faire la kippour comme tous les juifs. Et si elle se mariait le 10 Elul, ou elle se mariait le 11 ou le 12 Elul, elle a le droit de se laver. Maintenant, ici, c'est la grande question que les Rishonim demandent. Si c'est Assur Minatora de se laver, comment on peut faire une exception pour le roi et pour la Kala? C'est Assur Minatora, terminé. Tous les Juifs sont soumis parce que tu es roi, parce que tu es Kala, on te permet. Si on va dire que toute l'interdiction de se laver, c'est que Midrabanan, si la raison est interdite, ils ont dit pour les premiers 30 jours de la Kala, on fait une exception, pour le roi, on fait une exception. Donc, si c'est de Rabbanan, Chachamim peut faire une exception, mais si c'est Assur Minatora, comment on peut faire une. C'est la grande Kushia que le Rani demande sur la Rambam. Le Rambam qui dit que c'est Assur Minatora. Alors, comment ils ont pu permettre pour le roi et pour la Kala? Alors, Vachaya est la femme qui a couché. In Ol est un sandal. Elle a eu le droit de s'habiller avec un sandal, dit Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce qu'elle a accouché, donc elle est fatiguée. Donc la chaya, elle est fatiguée, il ne faut surtout pas qu'elle attrape froid. Donc si elle est pieds nus, ce n'est pas bon. Donc il faut avoir des chaussures. Donc elle a droit à tinol et à sandal. Pourquoi ce mot sandal? On aurait pu dire ici à chaya, tinol est un naal. Elle a droit d'être habillée avec un naal aussi. Pourquoi la Mishnah dit sandal? Parce qu'on a au début dit Ninata sandal, donc on continue à dire le même terme, d'accord, du Rabbi Eliezer. Chachamim osrim, chachamim, ils interdisent. Alors, ça veut dire quoi, ils interdisent? Donc, le firabi chachamim, il faut marcher pieds nus, et le chaya, il est obligé de marcher pieds nus. La chidouche, c'est froid. Il peut attraper froid. Chachamim Osrim. Mais pourquoi on dit Chachamim Osrim? C'est sur quoi chose Chachamim Osrim?
Sur les sandales. Sandales, c'est toujours du cuir?
Alors, l'après Rov Poskim, l'interdiction, c'est seulement si c'est cuir. Mais si c'est des Adidas, si c'est caoutchouc, si c'est compagnie, d'après Rov Poskim, c'est permis. Il y en a des Poskim qui disent. Mais non, on verra après dans la Sugya. Il y a toute une soubia d'après des pantoufles qui sont faites de liane ou de tissu. Est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est permis? C'est une soubia après. Alors, maintenant, quand on dit machloket Rabbi Eliezer Chachamim, est-ce que ça se rapporte la machloket que sur la chaya ou ça se rapporte? Oui.
Quel daf?
Nous sommes daf Ayin Gimel Amud Bet. La Mishnah daf Ayin Gimel Amud Bet.
Merci.
Alors, est-ce que Chachamim, la Chok et Rabbi Eliezer Chachamim, ça se rapporte que sur le dernier cas, sur Chaya, sur la femme qui a accouché, ou la Machlok est rapportée aussi sur Melech Mahakala? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi à la fin? Divrei Rabbi Eliezer, Akul Hukai, Rashi dans la Mishnah, Akul Hukai Melech Vekala Vachaya. Donc, Rashi nous précise que la Machlok et Rabbi Eliezer Chachamim, c'est sur tous les trois cas. C'est que Chachamim, Rabbi Eliezer a permis la Melech, la Kala et la Chaya. Et Chachamim Osrim, le Chora, tous les trois, ils interdisent. Alors, la Mishnah nous continue. Haochel Kakotev et Hagasa. Ceux qui mangent.
Oui, c'est ça, Rashi.
Je n'entends pas.
Comment il sait ça, Rashi?
Je n'ai pas compris.
Comment il sait que c'est les trois? Parce qu'on dirait ici. Comme c'est Rabbi Eliezer qui a parlé, c'était, on a l'impression que c'est que sur la Chaya.
Pourquoi? Pourquoi tu veux, tu optes plus pour
Ve dire... Ve'achaya, il y a un vav.
Et encore, il te fait mal ce vav. Pourquoi il est fautif?
Il y a un titre spécial pour elle qui dit Rabbi Eliezer.
Pourquoi tu es obligé? Tu peux dire Ve'ameler, Ve'akala, Ye'ratzuetirem, Ve'achaya, Ye'nonet et Sandal, tu veux Rabbi Eliezer? Les paroles les rapportent sur tous les trois. Qu'est-ce qu'il y a du mal? Pourquoi ça te gêne? Je ne vois pas qu'est-ce qui te gêne ici. Maintenant, tu demandes une bonne coucha qui a raconté ça à Rashi. Peut-être ça ne rapporte que sur le dernier. Peut-être on verra dans la Gemara. Peut-être on a une preuve dans la Gemara. On continue Mishnah. Aochel hakotevet hagasa. Un homme qui mange le volume d'une grande kotevet. C'est quoi une kotevet? Une date. Une grande date. Ça veut dire quoi? Il y a des petites dates, il y a des moyennes dates, il y a des grandes dates. À Ochel, ceux qui mangent, qu'à côté, mettent comme une date, Hagasa, qui est grande. Comme Oha, elle, ou que Garinata, avec le noyau. Pas qu'il a mangé le noyau qui pour, il a mangé un aliment qui contient le volume d'une grande date avec le noyau. C'est-à-dire, en vérité, si maintenant quelqu'un yom qui pourrait va manger une grosse date avec le noyau, il ne sera pas tour. Parce que le noyau, ce n'est pas un aliment. Donc, il aura mangé moins d'aliments. Il aura mangé la date sans le noyau. Donc, il n'est pas tour. On est khayaf. Seulement si on mange une date, plus encore un morceau de date qui remplace le volume du noyau. Ça, c'est le shiur pour être khayaf. On va ajouter, quand on dit qu'on boit, melo lugmav. Il faut boire melo le plein lugmav, son lugm, son lug. C'est quoi lug? Lug, c'est une mesure, mais ici, c'est pas lug, c'est lugmav. Donc, il faut dire qu'il y a logem. Le mot logem, c'est le guima. Le guima, ça veut dire une petite, on mange quelque chose, une légima, un petit onka ou quelque chose, comment on va dire ça? Légima, un petit
nash. C'est ce que peut contenir la joue.
Oui, alors ici c'est lugmav, c'est son logum. Logum, ça veut dire remplir la bouche. Une bouchée, voilà, une bouchée. Voilà,
une gorgée.
Gorgée, c'est pour le liquide, docteur. Ah. Gorgée pour le liquide et une bouchée, voilà, c'est une bouchée. Lugmav, sans bouchée. Aochel veshote et mitstarfin. Kol ochlin mitstarfin le kakotevet. Tous les aliments, ils s'additionnent pour donner la mesure de kotevet d'une date. Ça veut dire s'il mange un peu de pommes de terre, il mange après un peu de concombre, et ensemble, ça fait la mesure d'une kotevet, et bien ça s'additionne, et il est chayaf. Il n'est pas obligé de manger d'afke de la même, du même espèce. Chol hamashkin mitstarfin. Et tous les aliments et tous les boissons s'additionnent aussi. Donc, s'il va boire un peu de thé, un peu de jus de raisin, et ensemble, ça faisait melo lugmav, il sera khayaf. האוכל ושותה, אין מצטרפים. ושוא כי מורג' כי בועה, תסע דיסיון פה. Donc, s'il y a quoi? Il va prendre une demi-mesure de shtia, une demi-mesure de ochel, et bien ça ne s'additionne pas. Et bien il ne sera pas tour. Pourquoi c'est comme ça? Le plaisir de manger et le plaisir de boisson, c'est notre sorte de plaisir. Et ça ne peut pas s'additionner. Mange un peu de pomme de terre, un peu de concombre. Mange un peu de pommes de terre, un peu de concombre. Ça s'additionne. Ça fait après un plaisir d'avoir dans le ventre un aliment qui est à côté. Boire et manger, ça ne s'additionne pas. C'est quoi la question qu'il demande? Ça s'additionne sur une durée minimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça s'additionne sur une durée minimale? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'il veut dire là? Qu'est-ce qu'il dit le docteur Mouraka?
Sûrement que ça veut dire que quelqu'un qui mange et puis qui boit 5 minutes après, qui mange un aliment, il mange un autre aliment 5 minutes après, est-ce que c'est khayav ou pas? Ah. Ou quel est le temps?
D'accord, oui, il faut que l'on mange que des achilat peras. Il faut que depuis le début qu'on a commencé à manger jusqu'à la fin qu'on a mangé et qu'on a terminé un côté bête, il ne faut pas qu'il passe un laps de temps plus que achilat peras. Achilat peras, c'est le laps du temps qu'un homme normal il a besoin pour manger du pain de blé avec confiture, 3 betim. Si on a 3 œufs de pain, un volume de 3 œufs de pain, et on a mis de confiture dessus, parce que ça se mange plus facilement, et le laps de temps qu'un homme il a besoin pour avaler ça. Ça, c'est le chiot de Kéhir, il se passe 3 œufs, il y en a qui disent 4 œufs.
Quand la Mishnah elle dit Khayav,
oui.
C'est pour tous les trucs là que c'est Khayav Karet ou c'est que pour certaines choses?
Sur le manger et le boire.
Et le reste, non?
Le reste, on n'est pas Khayav Karet. La Makhloket Rishonim est ici, on a Khayav Malkut Minatora ou pas au Karet, c'est sûr qu'on est Khayav. On a mis une Mishnah après. Où est la Mishnah d'Af? Elle est où la Mishnah plus tard? Bon, alors, en tout cas, on va voir, on continue.
Disons, la Mishnah, elle a dit Assour sur les 5. Elle n'a pas dit Khayav, elle a dit que Khayav que sur la quantité.
J'ai compris, qu'est-ce que tu dis?
La Mishnah, elle a dit Assour sur les 5.
Oui. Oui.
Et elle a dit Khayav sur quand il mange une quantité.
Pour manger et pour boire, c'est marqué dans la Mishnah Khayav. A Ochel Kekote Betagasa Kamo Karanata. Vachotem Lo Lokmov Khayav. Le Khayav, il est marqué sur manger et sur boire. Alors, lisons Rashi. Vous avez Rashi. Yom Kippourim Assour Bachila Bishkia Mefaresh Begmara. Le Kol Hani Ikre Inouy. Tout ça s'appelle une privation de plaisir. Le cas de Yom Kippourim, Hei Inouyim Ktive. Il est marqué 5 fois le mot souffrance. Vahane Hei Havi. Et dans la Mishnah, il y a 5 espèces de souffrance. Shtia Bechla L'Achila. Boire et manger, c'est la même chose. Donc on a dormi. Achila Vechtia, c'est 1. Ritsa, c'est 2. Sicha, c'est 3. Nilat Sandal, c'est 4. Tashmishimita, c'est 5. Parce qu'il est marqué dans la Torah 5 fois le mot Vinitem. Maintenant, est-ce que c'est une. Asmachta, en vérité, c'est Midra Banan, ce Machar Hizofen Asmachto, c'est une vraie dracha, ça c'est la fameuse Machloke. Melech le roi, Darko, le Shivro, Liot Nae, la coutume, et c'est le louange du roi d'être beau. Shenema Melech Beyofio, Terezena Enecha, un roi dans sa beauté, les yeux, il doit voir. Donc il faut qu'il se présente beau, ça impressionne plus les gens, et comme le roi, il a la difficulté de se faire imposer, il est obligé de s'imposer pour faire peur au peuple, pour que les gens y soient bien élevés. Donc, la beauté de son corps fait partie de son pouvoir. Vakala et la kala, tsricha noy, il faut aussi se rappeler, la tchetchavev, alba ala, où le mari l'a fait apprécier, par contre, sur le chimium, la chupata, les premiers 30 jours de ce mariage, Hikiruya Kala, on l'appelle Kala. Vachaya, c'est quoi Chaya? Yoledet. C'est une femme qui accouche. D'où ça vient de la Torah? De par cette note, Chayot Heima. Les femmes juives, elles ont accouché vite. Ki Chayot Heina, comme des Chayot. Sinon, les sandales, pourquoi Shatsina Kachela? Parce que le froid, il passe travers les pieds et elle est pas, c'est pas bon pour la Chaya. Oui, docteur.
Mikhila, la Kala, elle doit être belle pour son mari, mais ce jour-là, il ne la regarde pas.
Ça, c'est vous qui dites.
Et comment il s'en va tôt le matin à la choule, il... toute la journée à la choule, il ne la voit pas toute la journée.
Et qui vous dit que...
Ils étaient confinés.
Voilà, voilà. Qui vous dit que la Kala, elle va un peu à la maison, que le nouveau Khatan, il est un peu à la maison, il est forcément être, obligé d'être à la choule.
Il n'y a pas est-ce l'obligation d'être à la choule depuis le matin?
Quoi? Une obligation? Pourquoi il y a une obligation? Il y a une
obligation. Je ne sais pas comment on a toujours été.
De faire les tfilot. Les tfilot, c'est quoi? C'est Shacharit, Moussaf, Kriyat Torah, Mincha, Neila. Maintenant, combien de temps ça prend? Ça peut prendre une demi-journée, ça peut prendre moins qu'une demi-journée. Le reste du temps, il peut être à la maison, il n'y a pas d'obligation de rester à la choule.
Ok.
Et vendredi soir, la veille aussi. Est-ce qu'à l'époque de la Gemara, on disait aussi les slichot comme chez nous et tous les piyutim? Ce n'est pas une obligation, ce que Chachamim a instauré. C'est les tfilot, la tfila, le chazara, le shliach tzibur, tout le piyotim, ce n'est pas une obligation. Ça, c'est pour donner un peu plus du goût à la journée, pour faire comprendre un peu plus aux gens de rentrer baigner, mais ce n'est pas une obligation. Alors, on va lire dans la Gemara. Assur, Anush Karetu, la Gemara demande une question. Comment ça se fait qu'il est marqué dans la Mishnah que Yom Kippourim, c'est assur de manger et de boire. Mais c'est beaucoup plus qu'assur. Si on est chayav karet. De quoi la Mishnah, aurait dû dire Yom Kippourim, chayav im ochel vechote. Il est chayav malkut, il est chayav karet. Mais chayav chatat, s'il mange bechogeg, il est chayav chatat, s'il mange bemeizit. Avec témoin, il est chayav malkut, il est karet. Alors, la Mishnah dit assur, c'est interdit. On ne dirait pas qu'il est chayav. Ça, c'est la couchette de la Gemara. Assour, comment ça se fait que la Mishnah dit seulement assour, mais anushkar et tout, donc il faut dire chayav, c'est beaucoup plus puissant. Amar Rabbi Ila, il a dit Rabbi Ila, vitem Rabbi Irmia, lo nitzrecha elo le chatzi shi'ur. La Mishnah nous parle du chatzi shi'ur. Les assour de manger, s'ils mangent une demi-shi'ur, c'est-à-dire ils mangent une demi-date. Donc s'ils mangent une demi-date, il n'est pas chayav. Mais au moins, c'est assour. Donc, il y a une certaine achila, seulement assour, et on n'est pas chayav karet si on mange un demi-shiur. Hani, ça va bien, la mandama chatsi shiur assour mina Torah, que la Torah, quand elle a interdit de manger, elle interdit aussi un demi-shiur. Elle est la mandama chatsi shiur mutar mina Torah, maïk le meimar. Mais si je dis que la Torah n'a pas interdit un demi-mesure, donc il est permis de manger une demi-mesure. Donc la Mishnah, quand il dit assour, elle ne parle pas d'une demi-mesure, elle parle d'une mesure entière. Et si c'est une mesure entière, on est chayav karet, donc c'est de revient à kushia. Pourquoi la Mishnah exprime le mot assour, elle aurait dû dire le mot chayav? Dites-moi, parce qu'on a appris. Hatsi shiur, une demi-mesure. Rabbi Yochanan amar assour mina Torah. C'est assur mina Torah. La Torah, elle a interdit une mesure, elle a interdit automatiquement une demi-mesure. Mais on n'est pas chayav karet, on n'est pas chayav malkout, ça c'est sûr. Mais la Torah, elle a interdit aussi un matier. Ashlaki shamar mutar mina Torah. Non, la Torah, elle a permis. Haniche, donc notre Mishnah, ça va bien, la Rabbi Yochanan qui dit c'est assur mina Torah. Donc je comprends, c'est ça l'assur de la Mishnah. El Rashlakish, maïklemé, mamufi Rashlakish, c'est permis de manger une demi-mesure. Ah, pourquoi le Mishnah a dit le mot assour? On le répond, mot de Resh Lakish, assour mi de Rabbanan. Mais Resh Lakish, il est d'accord que même si Minatora c'est permis, mais mi de Rabbanan c'est assour. Donc, manger un demi-mesure Yom Kippour, c'est le Firash Lakish Asur Mid Rabbanan, le Firabbi Yochanan, c'est Asur Mid Torah. La Machloket n'est pas seulement vis-à-vis de Kippour, c'est vis-à-vis de tous les Issurim de la Torah. Bon, la Torah interdit de manger Chametz Pesach. Donc, ceux qui mangent une demi, ceux qui mangent une demi Kezaït, le fils Rabbi Yochanan, il a fait un ensemble de Torah. L'issour de Chayav Karet, c'est manger Kezaït. Stam Achila, quand la Torah nous dit le mot Achila, c'est Kezaït. Donc, si, donc, s'il mange une demi Kezaït Chamet, le fils Rabbi Yochanan, on a fait un ensemble de Torah. Le fils Resh Lakish, c'est Moutar Minatora, c'est Assur que Midrabanan.
Oui, mais quand la Mishnah dit que c'est Assur Minatora, La Mishnah
dit Assur. Firesh Lakish, le Assur, ça se rapporte sur une demi-mesure qui est Assur Midrabanan. Le Firesh Lakish, Assur pour le demi-shiur Midrabanan.
Ah, pas Minatora pour lui.
Firesh Lakish, c'est que Midrabanan. Le Chora, si le Firesh Lakish c'est Midrabanan et la suite de la Mishnah, si on va dire que c'est deux choses Midrabanan, la Mishnah marche super bien. Le Firesh Lakish, tout ça, c'est Midrabanan. Le Firesh Yochanan, et la Assur, c'est une demi-mesure, c'est Assur Minatora. Et les autres, soit les autres sont aussi Assur Minatora. Soit les autres sont assur midrabanan. Donc le mot assur peut être pour, soit pour Minatora, soit midrabanan. C'est bon. Le mot assur peut rentrer sur le deraita, sur le drabanan. Il ne peut pas sortir dans ce qui est chayav. Si on a chayav, malkout ou karet, on aurait dû être marqué chayav. Quand je dis assur, il faut trouver une espèce de nourriture, une espèce de manger qu'on n'est pas chayav. Mais c'est assur, soit Minatora, soit midrabanan. Donc, le Firesh Lakish, c'est Minatora, le Firesh Lakish, c'est Midrabanan. Donc, par exemple, le Nevila, l'homme, il va manger un cadavre, un morceau de viande pas cachère. Manger un morceau de viande pas cachère qui est moins que Kizai. Le Firesh Lakish, c'est Assur Minatora, le Firesh Lakish, c'est Moutar Minatora. La Halakha, il est comme qui? Qui est-ce qui a raison des deux là? La Halakha, il est comme Rabbi Yochanan, c'est un grand clan. Quand il y a toujours comme Rabbi Yochanan. Donc, Chatzi Shiur Assur Minatora. Est-ce que ce din Chatzi Shiur Assur Minatora, c'est seulement pour la nourriture ou c'est aussi pour d'autres choses? Dans d'autres choses. Par exemple, la Torah, elle a interdit de Mechalel Shabbat écrire deux lettres. Ceux qui écrit deux lettres Shabbat, il a Chayav Minatora. Ceux qui écrit une lettre, est-ce qu'il a fait un Issur de Rabbanan ou il a fait un Issur Minatora?
Le Rabbanan.
Comme ça vous dites?
Ouais.
Comme ça vous dites?
Ouais. Une somme du Minatora.
C'est sûr que ce n'est pas Minatora déjà.
Pourquoi?
Parce qu'il faut deux lettres.
Quoi?
Il faut deux lettres.
Il faut deux lettres pour être Hayav, peut-être. Peut-être ça. Oui. Oui, mais ici, chez le Chazir, on dit. Pour être chayav, il faut manger un kezaït entier. Et si tu manges une demi-kezaït, tu as fait un issur minatora. Peut-être quand on dit que Shabbat, il faut écrire deux lettres, peut-être c'est pour être chayav, il faut écrire deux lettres. Mais pour que c'est assur, peut-être une lettre aussi rend déjà assur comme la chazir. Quelle est votre preuve qu'une lettre, c'est complètement permis minatora?
Ça ne s'appelle pas un shiur.
Si tu as raison, et un demi-kezaït, ça s'appelle non plus un shiur, manger un demi-kezaït, c'est assur minatora. Malgré que ce n'est pas un shiur. Pour les achilot, tu manges moins que kezaït, c'est moins que le shiur. Et Rabbi Yochanan dit, c'est assur minatora. Ah, peut-être pour Shabbat aussi. Bon, ça c'est, il y a un rachid dans le Sechet Shabbat. Rashi dit dans le Masechet Shabbat que ceux qui écrivent une lettre Shabbat, c'est Assur Minatora. Midin Chatzi Shiur, Assur Minatora. C'est Assur Minatora. Alors, quel est le din si on porte dans la rue un demi-shiur? Quel est le issur de porter dans la rue? Bon, il y a issur de porter dans la rue, mais quel est le shiur? Combien porter? Ça, c'est une Mishnah dans le Masechet Shabbat, c'est beaucoup de choses. Pour les aliments, c'est aussi. C'est. Pour les aliments, quel est l'issur de Chilou Shabbat pour les aliments?
Kazaït.
Kakoutevet, je crois, non? C'est pas Kakoutevet?
Grogeret, une figue sèche. Kotevet, c'est une date. Ça, c'est pour Kippour, c'est la date. Et pour les aliments Shabbat, la mesure, elle est grogeret, la mesure d'une figue sèche. Alors, celui qui arrache de l'arbre, s'il arrache de l'arbre le volume, un aliment d'un volume d'une figue sèche, voilà, il est chayav. Si c'est moins que ça, il n'est pas tout. Ou si quelqu'un va moudre du blé, s'il va moudre la mesure d'une grogeret, il est chayav. Il va mesurer, il va moudre moins, il n'est pas tout. Non, il va cuire. Sinon, il va cuire un morceau de viande, un morceau de pomme de terre Shabbat. Si c'est la mesure d'une grogeret, il est chayav. Moins qu'une grogeret, il n'est pas tout. S'il porte dans la rue aussi. Il porte dans la rue du regard, il est chayav, il porte une demi, il n'est pas tour. Quel est maintenant le dîner un homme qui va cuire une demi-grogeret? Est-ce qu'il est chayav? Non, chayav, c'est sûr que non. Est-ce qu'il a fait Issour Minatora ou Midrabanan s'il cuit une demi-grogeret? Alors, Rachel dit ça aussi, c'est aussi Issour Minatora. De la même façon qu'il est interdit d'écrire une lettre, Midin Chatzisour Minatora, ceux qui va cuire une demi-grogeret, c'est Issour Minatora. Ce qui dit Rabbi Yochanan, il a dit, c'est pas que pour les aliments, pas pour la nourriture interdite, mais pour les dinim de Shabbat. Où ça peut jouer encore un rôle d'une demi-mesure, où il y a encore le dinim des mesures.
Celui qui met une seule chaussure à Yom Kippour, il serait Chayav. Chayav, pas Chayav, mais il ferait un Issour. Ou au contraire, c'est pas une chaussure là, le chiour.
Non, mais la truc, elle dit, il a ta sandale, donc même une seule. Non, je sais pas. Il n'y a pas marqué sandale.
C'est une paire.
Tu poses une bonne question. Quelqu'un va se laver. D'après la Chita, que se laver, c'est Issour Minatora. Est-ce qu'il y a un chiour, combien laver la surface de la peau qu'on lave? Est-ce qu'il y a un chiour? Si la Gemara nous dit après, même Hoshit Etzba Obamaim, c'est Issour. Même faire rentrer un doigt dans l'eau, c'est Issour. Laver même un doigt, c'est interdit de laver. Mais c'est est-ce que c'est Issour Minatora ou Midrabanan? Est-ce que Minatora, il y a un chiour? Il faut laver tant et tant du corps pour être Hayav?
Dans Shabbat, les chiourines, ils sont marqués. Dans Yom Kippour, c'est pas marqué. Si?
Pour la nourriture, c'est marqué, justement. La Mishnah nous a marqué, les chiour, c'est Kotevet. Sur le Chitza, la Mishnah nous a pas dit.
C'est peut-être une preuve supplémentaire, alors que c'est pas Minatora.
Sur le Chitza, c'est pas Minatora, parce que sinon, on aurait dû dire un chiour.
Ouais.
Parce que si ça aurait été... Non, peut-être ben, c'est 8 Minatora, mais c'est le Shiur, c'est un Mashu. Je peux dire Chitza, c'est Issour Minatora, mais il n'y a pas de Shiur. C'est un Mashu aussi, la Torah elle est interdite. C'est pour ça que les Mishnah ne donnent pas de Shiur. Alors, on va continuer avec Mara. Alors, donc, la Mara nous a dit qu'il reste la Kishir et d'accord.
Quand il n'y a pas un Mashu, c'est... Il faut toujours un chiour pour rendre Hayav, non?
Non, il y a des choses qui sont Issour B'Mashehu. Il y a des choses qui sont Issour B'Mashehu.
Quoi, le feu, le quand on sort la flamme, c'est Mashehu? On sort la flamme dehors, quand on souffle?
Pessah, non? Pessah?
Quoi, Pessah? Pessah B'Mashehu, ça c'est ouais. Midrabanan. Quand il y a un morceau de chametz qui donne un goût à une autre chose, que c'est Issour B'Mashehu, ça c'est un chumra de Rabbanan. C'est pas Minatora. La flamme, tu dis, ce qui fait une flamme, même s'il a fabriqué une seule étincelle, on est chayav. Ça c'est juste. Dans la flamme, il n'y a pas de chiour. On n'a jamais vu faire un grand feu ou un petit feu. On est chayav seulement si on fait un grand feu, et si on fait un petit feu, on n'est pas tour. Dans le truc, il n'y a pas de chiour. Pourquoi même il n'y a pas de chiour? Parce qu'il n'y a pas de différence entre un grand feu et un petit feu. Le petit feu, il viendra tout seul un grand feu. Mais des fois, il y a des étincelles qui n'ont pas une longue vie. Tu prends une machine, tu prends une scie électrique et tu vas couper un fer. Alors, il y a des étincelles qui vont éclater. Mais ces étincelles, ils ont une vie très courte. Ils ont une vie de 1-2 secondes. Est-ce que faire ce genre d'étincelles, c'est la Sourmina Torah ou pas? Donc, il fait une étincelle qui ne vit qu'une seconde.
Ou bien on frotte sur un tissu. Des fois, on met un pull et ça fait des étincelles.
Si c'est chez l'Oba Kavana, mais ça ne sait rien. Mais disons que c'est avec Kavana. Il fait une étincelle avec Kavana. Un homme, il va prendre une scie et il va scier du fer Shabbat et ça va jeter des étincelles qui ont une durée de vie de 1-2 secondes. Est-ce que c'est Assur Mina Torah? Et si on va dire que ce n'est pas Assur Mina Torah, pourquoi pas? Quel est le shiur? On allume une mèche. Tu as un feu et tu allumes une mèche. Et la mèche s'éteint une seconde après. Tu n'es pas tôt. Il faut 2 secondes, il faut 3 secondes, il faut 10 minutes. C'est quoi le shiur? On ne trouve pas dans la Gemara un shiur sur le feu. Dans le feu, il n'y a pas les shiur. Il y a plein de Mishnayot dans Maseret Shabbat sur le bois. Quelle est la mesure du bois pour sortir? Quelle est la mesure du fer? Quelle est la mesure de la chava? On dit toujours l'utilisation la plus petite. Pour les herbes, arracher les herbes, à quoi remplir la bouche, une bouchée pour un animal? Mais c'est pour quel animal? C'est nourriture pour le chameau. C'est à quoi remplir la bouche du chameau? Si c'est pour la vache, à quoi remplir la bouche de la vache? Si c'est pour le chevreau, nourriture pour le chevreau, à quoi remplir la bouche du chevreau? Et pour le feu, on ne trouve jamais le feu à quoi allumer une ville entière.
Pour l'eau, c'est l'œil, pour le collier dans l'œil. Une toute oui. petite goutte. Donc le feu, c'est pour allumer. C'est bizarre qu'on ne l'a pas marqué.
Parce que le feu, même une petite étincelle, peut faire flamber tout si tu mets du gaz. Si tu as du gaz et tu fais une petite étincelle, ça va te faire flamber tout. Le feu, c'est spécial, le feu. Le feu, c'est spécial, l'Ichora. Où il y avait au Mishkan du feu, ou pour la Melacha de Mishkan, d'où on apprend la Melacha de ne pas faire du feu Shabbat. Bon, c'est marqué dans le Talotavar, où est-ce que le Moshe Techem Beyom Shabbat. Mais où dans les 39 travaux pour le Mishkan, il y avait le feu? Parce qu'ils étaient obligés de cuire les Samemanim. Donc, ils étaient obligés de faire du feu. Alors, on va continuer la Gemara chez nous. Elle met Ata. La Gemara pose une question. Ihachi. Je suis 1, 2, 3, 4, 5. Je suis 5 lignes avant la fin du Hamoud. Ihachi. Si c'est comme ça que le Assur de la Mishnah, c'est seulement Midrabanan. Que Hatsishur se somme Assur Midrabanan. L'on est chayev valé à Korban Shvoa. On n'aurait pas dû être chayev Korban Shvoa. Alors, qu'est-ce que c'est Korban Shvoa? Alors, ça, c'est un sujet qui est marqué dans ce Shabbat, on a vu dans le Chumash, Korban Shevoa. Un homme qui fait un Shevoa, il jure quelque chose, après il transgresse. Alors, il est marqué dans la Torah, il est obligé de faire un Korban. Korban Shevoa. Maintenant, il y a un din comme ça. Alors maintenant, on a vu dans la Mishnah, Shevoa Shelo Ochel. Un homme qui jure, je ne vais pas manger. Aujourd'hui, je ne mange pas. Ve'achal nevelot ou tréfot. Et il a mangé un cadavre. Ou l'avion tréfa. Shkatsim v'ramassim. Ou des vers de terre. Il est chayaf. Il est chayaf pour quelle chose? Pas sur avoir mangé nevela. Ça, c'est sûr qu'il est chayaf. Ça, on ne discute pas. Il a mangé nevela. Il est chayaf de korban shvua. Il a transgressé sa shvua. Il a dit, je jure de ne pas manger. Il a mangé de chazir. Et donc, tu as transgressé ta choix, tu as juré de ne pas manger, tu as oublié manger, donc tu es chayav. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon nous dit qu'on n'est pas tout. Maintenant, Vahavinanba, on avait posé une question. Amai chayav, pourquoi s'il mange Nevela, il est chayav? Moi, je bavour mettre mes harcinaï, oui, pourtant il a juré au harcinaï de ne pas manger chazir. Donc, la deuxième chevoie n'est pas valable. Parce qu'il y a une halakha comme ça, quand un homme jure quelque chose, après jure le contraire, la deuxième chevoie n'est pas valable. C'est-à-dire un homme qui dit, je jure qu'aujourd'hui je mange. Après, il dit, je jure qu'aujourd'hui je ne mange pas. Est-ce qu'il doit manger ou il ne doit pas manger? Il a juré d'abord que je ne mange pas. Donc, cette chevoie est valable. Donc, c'est interdit de manger. Du moment que c'est interdit de manger, maintenant tu dis, je jure que je mange, oui, cette chevoie n'a aucune valeur. Pourquoi elle n'a aucune valeur? Parce qu'elle est déjà été précédée par une chevoie, le contraire. Tu t'es déjà engagé avec le premier chevoie de ne pas manger. Donc, tu ne peux pas t'engager maintenant une deuxième fois de lui manger. Donc, la deuxième chevoie ne vaut rien. Ça s'appelle une chevoie de chav. C'est comme jurer pour rien du tout. L'homme qui jure de bêtises. Ça n'a aucun engagement. Maintenant, la Gemara demande, quand les Juifs étaient au Har Sinaï, ils ont juré d'être fidèles à la Torah. Donc, on était 600 000 Juifs. Au Har Sinaï, on a juré qu'on accepte la Torah. Et dans la Torah, il est marqué qu'on n'a pas le droit de manger chazir. Donc, les Juifs, ils ont juré qu'ils ne mangeront jamais chazir. Si maintenant un Juif, il mange huit chazir, alors quoi? Il a parlé contre le premier choix. Donc, il n'a pas le droit de manger chazir. Un homme qui dit « je jure que je mange chazir », ça n'a aucune valeur. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? « Shvua shelo ochel »« Je jure que je ne mangerai pas ». Quand un homme dit « je jure que je ne mangerai pas », il parle de chazir ou il parle des choses cachères? Les choses cachères, il peut manger. Et donc, il peut jurer que je ne mange pas. Donc, s'il mange, il a transgressé. Mais si un homme dit, je jure que je ne mange pas chazir, ça n'a aucun sens. Tu as déjà juré une fois. Ça veut dire, quelque chose qu'on s'est engagé, quand tu fais par un choix, et après tu fais un deuxième choix, soit le choix va dans le même sens que la première choix, soit que va dans un contre-sens, dont les deux cas, ta choix n'a aucune valeur. Un homme qui jure aujourd'hui, je jure de ne pas manger chazir. Mais qu'est-ce que j'ai? Tu crois que tu es engagé à cause de toi? Tu étais déjà engagé à Sinaï. Ça n'a aucune valeur. Sinon, tu parles des bêtises. Il faut te donner des coups parce que tu parles des bêtises.
Alors, dans ce cas-là, toutes nos générations, 5000 ans de génération, ils ont sûrement juré quelque chose qu'on jure l'inverse aujourd'hui.
Je n'ai pas compris.
On était les 5000 ans, les générations précédentes. Ils ont sûrement juré l'inverse que ce qu'on jure aujourd'hui. Donc, ça n'a aucune valeur.
Ça ne m'engage pas. Quoi, si mon grand-père il a juré de ne pas monter dans une Porsche, moi, je n'ai pas le droit de monter sur une Porsche. Si mon grand-père il jure de ne pas monter dans une Porsche, ça ne l'engage que lui. Il ne peut pas m'engager, moi.
Et là, ils nous ont engagés à 5000 ans au Mont Sinaï. On a été engagés.
Votre Kouchia, c'est la Kouchia de la Gemara. Ça, c'est la Kouchia de la Gemara. Le Roi, c'est nos parents qui ont juré au Har Sinaï. Mais moi, je n'ai pas juré. Donc, si moi, je jure de mieux manger chazir ou de ne pas manger chazir, qu'est-ce que ça veut dire? Mais mon grand-père, il a juré. Mais je m'en fous de mon grand-père. Ça, c'est la Kouchia de la Gemara. Évidemment, c'est qu'est-ce que la Gemara répond?
On était là-bas.
Moi, je vous ai vu. Moi, je me rappelle. Je ne me rappelle pas de quelle tribu, mais à gauche, vous étiez à 300 mètres, pas loin de moi. Moi, je vous ai vu à Har Sinaï. Papa Moshe Rabbeinu était devant, j'étais un peu derrière. Moi, je vous ai vu.
Moi aussi, je l'ai vu.
Ah, mais ça, c'est pas soute. Toi, ça, c'est pas un douche. Alors, au Har Sinaï, nous avons juré, nos âmes étaient là-bas. Et le serment de nos âmes au Har Sinaï est un serment qui a force de loi. Sa force de loi, c'est un chidouche. On aurait pu dire nos âmes étaient là-bas. Bon, les âmes, c'est, on ne peut pas toucher, c'est de la magie, c'est abstrait, ça n'engage pas. On voit que non, que la présence de nos âmes au Har Sinaï, et on a juré, c'est un engagement pour nous aujourd'hui, que nous ne pouvons pas manger chazir. Alors donc, si un homme aujourd'hui dit « je jure que je ne mange pas chazir », ça ne veut rien dire, tu as déjà juré. Donc, tu choisis Chouachav, où il dit, je jure que je vais vivre manger chazir. Tu n'as rien, tu ne peux pas manger chazir. Tu t'es déjà engagé. Alors, Bahavina, bah, donc la Gemara, elle a demandé, un homme qui dit, je vois chez l'Ochel, je jure que de ne pas manger, de Achal et Nevelot, il a mangé une Vela, Tanekamedi Chayav, méchant parce qu'il a transgressé la Shvoa. La Gemara demande, mais il n'a pas transgressé la Shvoa. Étant donné que quoi, il a juré s'il n'était pas mangé Chazir. Donc, si après il dit, je jure de ne pas manger Chazir, ça n'a aucune valeur. La seule chose qu'il a fait, c'est d'avoir transgressé la Shvoa de Har Sinaï. Et sur ça, il n'y a pas un din de Shvoa, Korban Shvoa. Le din de Korban Shvoa ne s'applique qu'à une Shvoa que l'homme y fait avec son corps. Aujourd'hui, tu fais un Korban, une Korban Shvoa, c'est que tu jures maintenant de ne pas manger une noix. Et on mange une noix, on a transgressé son serment. Mais la Shvoa qu'on a fait au Har Sinaï, parce que c'est que notre âme, malgré que ça a une force de loi, elle annule toutes les autres choix que tu fais après. Mais transgresser, ce n'est pas Chayav Korban Shvoa. On est Chayav Malkout. Un juif qui mange Chazir, il est Chayav Malkout parce qu'il a transgressé justement ce qu'il a juré à l'époque, mais il n'est pas Chayav Korban. Le Korban doit être une Shvoa que l'homme lui-même il a prononcée. Et ça, c'est intéressant, les juifs qui étaient au Har Sinaï et Behemet, ceux qui étaient présents, si eux, ils ont mangé Chazir, est-ce qu'ils étaient Chayav Midin? Est-ce qu'ils étaient Chayav Midin Korban Shvoa? Est-ce qu'ils étaient obligés d'apporter un Korban?
Non, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah.
Non, je parle après qu'il a reçu.
Après, oui.
Alors, un juif au Sinaï, après le Sinaï, pendant les 40 ans, si un juif, il a mangé Chazir dans le désert, est-ce qu'il était obligé d'apporter un Korban Shvoa parce que il a transgressé sa Shvoa, la Shvoa qu'il a fait au Har Sinaï. On n'a jamais vu ça. On n'a pas vu que les Juifs dans le désert, ils ont apporté un Korban Shvoa.
Non, parce qu'ils n'avaient pas de cochon. Ils ne pouvaient pas manger Chazir parce qu'ils n'avaient pas.
Mais ils pouvaient bachaler le Shabbat.
Ils n'ont pas transgressé. Ils n'ont pas transgressé.
Il y avait Nevela, il y avait Tréfot, une bête qui est morte. Ils ont des animaux, un animal qui est mort et elle était Nevela. Si un juif il a mangé, est-ce qu'il apporte un Korban Shvoa?
Ils avaient la manne.
Non, mais je pose une question théorique. Ça ne m'intéresse pas de savoir s'il y a un juif qui est transgressé. Je demande une question théorique. Un juif du désert qui a mangé Chazir, est-ce qu'il était Chayav Korban Shvoa?
Ben oui.
Ben oui. C'est son corps, oui.
Non, je pense pas.
À l'époque du Beth Amikdash, si on était chayav d'une korban, d'un korban shvoa, à l'époque du Beth Amikdash.
Oui.
On était chayav d'un korban shvoa.
Il y a un homme à l'époque du Beth Amikdash, il dit, je jure que je ne vais pas... Ouais. Manger cette pomme de terre et mange la pomme de terre. Il a Chayav Korban Shvoa, oui.
Peut-être il faut dissocier le serment collectif et le serment individuel.
Alors pourquoi, après le don de la Torah dans le désert, il ne serait pas Chayav? Il est Chayav.
C'est ça que je demande. Peut-être la Shvoa au Har Sinaï, c'est une Shvoa collective, elle n'engage pas un Korban Shvoa. Ou peut-être parce qu'elle était obligée, parce qu'au Har Sinaï, on était obligé de jurer parce que Shem il a dit si vous jurez pas vous allez mourir. Et en halakha, un homme qui fait un serment sous menace, il n'est pas chayav korban shvoa. Seulement le problème il est qu'un homme qui fait une shvoa sous menace, la shvoa n'est pas du tout valable. Alors pourquoi la Gemara nous dit mushba bomed mehar Sinaï? La Gemara nous dit bien qu'aujourd'hui un homme qui jure de pas manger chazir, la shvoa n'est pas valable parce qu'il a déjà juré. Ça veut dire que la Shvoa, à l'époque, malgré qu'elle était sous menace, elle est valable. Donc, si elle est valable, pourquoi on n'est pas Chayav Korban Shvoa? Peut-être on n'a pas dit le mot Shvoa. On a dit simplement Nase Venishma. Peut-être on n'a pas prononcé le mot Shvoa. Alors, pourquoi c'est un Shvoa? Alors, pourquoi on dit Mushba Vomed? Ah oui, parce que c'est marqué Allah. La Allah veli shvoa betochamech. Parce que c'est vima Allah ou la chan shvoa. Mais le mot Allah, il n'est pas marqué Har Sinaï. Le mot Allah, il est marqué à la fin des 40 ans. Il y avait Allah. Mais le matin Torah aussi, il y avait une Allah. En tout cas, on dit Moujba, Vormel, Mersini, ils ont juré. Alors pourquoi on n'est pas Khayaf Korban Shavua? Peut-être si c'est collectif, on n'est pas Khayaf. En tout cas, on va revenir chez nous. La Gemara pose maintenant un kusha comme ça. On avait posé un kusha. La Mishnah nous a dit, un homme qui a juré de ne pas manger Nevela, et il a mangé, et le Khayaf Shavuat, Korban Shavua. Pourquoi il a Khayaf Korban Shavua, mais la Shavua n'est pas valable parce que tu as déjà juré Har Sinaï. Alors, Rav et Shmuel, Rabbi Yochanan de Amre, donc tous les trois Chachamim, ils sont venus, Rav et Shmuel, Rabbi Yochanan, ils ont dit, la Mishnah parle dans le cas de Kolel Devarim Hamutarim im Devarim Haasurim. Il n'a pas fait une Shavua que pour le Chazir. Il a fait la Shavua sur des choses cachères et pas cachères. Et étant donné que la Shavua est valable pour les choses, pas pour les choses cachères, mais là, automatiquement, c'est valable aussi pour les choses pas cachères. On appelle ça un Shavuat Kolelet, un Shavua qui inclut. Qui est un choix qui collait et le collait le dvarim haasurim im dvarim hamutarim. Je m'interdis de manger pommes de terre et je m'interdis de manger chazir. Donc, étant donné que la chevoie est valable vis-à-vis de pommes de terre, donc, mais c'est aussi valable vis-à-vis de chazir. Donc, l'homme, il s'interdit de manger chazir. Ça, c'est quand tu jures que contre la Torah ou que pour la Torah, un homme, il va dire, je jure que je vais tenir le loulav le premier jour de Sukkot. C'est un choix de chambre. Tu as déjà juré Har Sinaï, donc ça n'a aucune valeur. Ou tu jures que tu ne vas pas prendre le loulav, mais ça n'a aucune valeur. Tu as déjà juré Har Sinaï, tu vas prendre le loulav. Donc ta choix n'a aucune. Mais si un homme va dire, je jure que demain, je vais prendre une pomme de terre plus un loulav. Alors, vis-à-vis de la pomme de terre, ton engagement, il est valable, donc vis-à-vis du loulav aussi. Donc, un homme, il va dire, je jure de ne pas manger des pommes de terre et pas chazir. Étant donné que la chevoie t'interdit de manger la pomme de terre, donc ça t'interdit aussi de manger chazir. Donc, s'il a mangé chazir, il est chayav korban chevoie. Ça, c'est le sens de la Mishnah.
La chevoie, il faut qu'elle soit faite devant des témoins ou pas?
Non, pas besoin de témoins. On n'a pas besoin de témoins. Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan d'Amre, les deux, trois, ils ont dit, « Bekolel dvarim hamutarim » ça c'est leur chita. Le Resh Lakish Amar, Resh Lakish ne tient pas ce tirout. Il n'est pas d'accord. Oui.
Excusez-moi. Voilà. On fait une joie par rapport à une takana chachamim. Genre par exemple un deuxième jour de fête. Je fais une joie par exemple que je veux pas respecter le deuxième jour. Je suis en rose l'arrêt et je veux pas respecter le deuxième jour. Et je fais une joie. Je dois faire une korban joie ou pas? Puisqu'en fait au Har Sinaï, il n'y a pas
eu. Tu es dans le fin fond de la Sugya. C'est exactement, c'est ça notre Sugya. C'est ça qui discute notre Sugya. Notre Sugya discute si un homme, il fait une Shvoa sur un Issour de Rabbanan, est-ce qu'il y a Chayav Korban Shvoa? C'est, on va dire, toute la Gemara pour comprendre, mais Rash Lakish, elle a dit, Chatsi Shi'ur, c'est un Issour de Rabbanan. Et sur ça, la Mishnah nous a dit tout de suite, on n'a pas encore compris, on lit le prochain morceau Gemara. Resh Lakish Amar, Resh Lakish interprète la Mishnah de Korban Shavua autrement. Yatamotzel un peu farej, chatsi shiur, valibet rabbanan. Resh Lakish, il interprète la Mishnah de Korban Shavua quand il a juré qu'il ne va pas manger nevelot ou trefot. Alors Resh Lakish, il dit, on parle qu'il a juré de ne pas manger un demi-kezan. Tu jures que je vais pas manger un demi. Donc, min ha-Torah, il a le droit de manger un demi kezaï. Min rabanan, il n'a pas le droit. Mais min ha-Torah, il a le droit de manger. Donc, si maintenant un homme, il dit clairement, je jure de pas manger un demi kezaï et trazir, Resh Lakish, il dit que cette shvoa, elle est valable. Donc, si tu manges le demi kezaï, tu es chayav korban shvoa. Pourquoi cette shvoa te rend chayav? Parce que la Torah, elle a permis de manger un demi chazir. Donc, comme la Torah a permis de manger un demi-kezaït, Donc, la Torah n'a pas interdit. Donc, moi, je m'interdis. Donc, pour moi, je m'interdis. Donc, si après, on mange une mikzaït, on a chayav korban shvua. Comme ça, Resh Lakish, il interprète. Pour le moment, on pense comme ça. Resh Lakish, il dit, « Yata motza, tu ne peux pas trouver un pshat dans la Mishnah. Le pshat de Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan ne tient pas la route. » Parce qu'il est fier, Resh Lakish, ça n'existait pas, cette histoire de « kolel dvarim hamuterim et dvarim haasurim ». Resh Lakish et la Rashita, un homme qui dit « je ne mange pas pomme de terre et je ne mange pas chazir », la choix visée de chazir n'est pas valable. Elle est valable visée de pomme de terre, mais elle n'est pas valable visée de chazir. Donc, où je peux trouver une choix qui interdit chazir? Un homme qui a fait une choix de ne pas manger un demi-kezaï. Alors, même Faresh, soit qu'il a dit clairement « je ne mange pas un demi-kezaï de l'Ibé de Rabbanan », Ibestam, ou il a dit simplement « je ne mange pas un l'Ibé de Rabbi Akiva ». Alors, pour comprendre ce morceau de Gemara, il faut connaître un autre morceau de Gemara qui ne parle pas de chazir, mais qui parle pour quelque chose qui est permis. Il y a un machlok et Rabbanan Rabbi Akiva, un homme qui prononce « je ne mange pas ». Qu'est-ce que ça veut dire « je ne mange pas » ? Je ne mange pas un kezaït, mais un demi-kezaït, je me permets de manger, ou je ne mange même pas un demi-kezaït ? On ne parle pas de chazir, on parle de pommes de terre. Je jure que je ne mange pas de pommes de terre aujourd'hui. Maintenant, il a mangé un demi-kezaït. Est-ce qu'il apporte une korban chevoua? Est-ce qu'il a transgressé sa chevoua? Rabbanan pense qu'il n'a pas transgressé. Parce que quand un homme dit « je jure que je ne mange pas », il pense automatiquement à kezaït. Parce que normalement, dans la Torah, « mange matzah », c'est manger kezaït. « Ne mange pas chazir », c'est pas manger kezaït. Donc, normalement, on mange ses kezaïs. Donc, quand un homme il prononce « je jure que je ne mange pas aujourd'hui des pommes de terre », il pense à kezaïs. Donc, s'il mange un demi-kezaïs, il n'a rien fait de mal. Rabbi Akiva, il dit non. Quand un homme il dit « je ne mange pas », ça inclut même un demi-kezaïs. Quand la Torah dit « ne mange pas chazir », la Torah parle à un kezaïs. Mais quand un homme il dit « je ne mange pas », ça inclut même un demi-kezaïs. Donc, Resh Lakish, il dit « la Mishnah qui nous a dit « Shavua shelo ochel v'achal nevelot » il est chayav korban shavua. Un homme qui dit « je jure de ne pas manger nevela » et il a mangé le chayav. La Mishnah parle qu'il a juré pour un demi-kezaï. Et comment? Il a prononcé le mot demi ou il n'a pas prononcé le demi? Les filles Rabbanan, on parle qu'il a prononcé le mot « je jure de ne pas manger un demi-kezaï ». Donc, c'est assourd de manger un demi-kezaï. S'il a mangé, il a fait un korban shavua. Mais s'il aurait simplement prononcé « je jure que je ne mange pas chazir », alors automatiquement j'aurais interprété un kezaït, et kezaït a déjà juré à Sinaï. Ça c'est l'Ibé de Rabbanan. Mais à l'Ibé de Rabbi Akiva, on peut interpréter la Mishnah aussi. Il a dit « je jure de ne pas manger chazir ». Mais d'après Rabbi Akiva, quand tu jures que tu ne manges pas, tu penses aussi à un demi-kezaït. Donc, automatiquement, tu as juré de ne pas manger de mekezaït chazir. Et comme la Torah, elle a permis de manger de mekezaït chazir d'après Resh Lakish, mais la tachvou est l'échal, donc s'il va manger maintenant un demi, automatiquement, il va être chayav korban shvua. Alors donc, la Gemara dit, on voit ici qu'il y a korban shvua pour jurer pour un demi-shiur, le fil Resh Lakish. Parce que c'est moutar min Torah, mais la kushia et les Resh Lakish dit c'est assur mi de Rabbanan. Le fait que c'est assur mi de Rabbanan, est-ce qu'il y a korban shevoua? Parce que tout ce qui est assur mi de Rabbanan, il est peut-être aussi assur mi de Torah. La Gemara dit comme ça, vichite, mais si tu vas dire kim de itle eter min Torah, kachay korban shevoua. Du moment que c'est moutar min Torah, alors la shevoua peut être valable pour un issur de Rabbanan. La Gemara nous dit, mais c'est faux. Maintenant, on a vu une autre Mishnah, pas vis-à-vis de Shavuot, pas vis-à-vis de Korban Shavua, mais vis-à-vis de Shavuot Ha'edut. Il y a un din de Shavuot Ha'edut, c'est aussi marqué dans la parasha de Shabbat. Shavuot Ha'edut, eno noheget el beruim leheid. Alors, qu'est-ce que c'est Shavuot Ha'edut? On a vu dans le Chumash hier, Shabbat, un homme qui connaît un secret, un témoignage. Et il est invité de venir au Beit Din témoigner, et il refuse. Et il jure qu'il ne connaît rien, il n'a rien vu. On avait déjà parlé, Rouven, il a cogné la voiture de Shimon, et Shimon, il demande il y avait un témoin, Rouven a cogné la voiture de Shimon, il l'a abîmée, Lévi l'a vu. Maintenant, Shimon dit à Lévi, dis-moi, toi tu as vu qui m'a cogné la voiture? Bien, Obedin et témoigne contre lui. Alors Lévi dit, non, moi j'ai rien vu. Il dit, mais t'es menteur, viens Obedin, tu as bien vu. Et bien Obedin. Alors, je demande à ce monsieur de témoigner pour moi. Non, j'ai rien vu, monsieur, les rabbins, j'ai rien vu. Jurez que vous avez rien vu. Je jure que j'ai rien vu. Et après, il avoue que quoi, qu'il a vu, qu'il a menti. Ça, c'est le din de Shavuot Haïdout. Eh bien, il a rêvé un korban. Alors, Shavuot Haïdout, il rêve korban. Quel est maintenant le din? Une femme qu'elle a vu un accident. Et le type, il demande à la femme, allez-y, madame, témoignez que vous avez vu l'accident. Et la femme, elle jure, j'ai rien vu. Et après, elle avoue, en vérité, elle a vu. Est-ce qu'elle apporte un corban ou pas? Est-ce qu'elle apporte un corban? Elle n'apporte pas de corban. Pourquoi elle n'apporte pas de corban? Parce qu'une femme ne peut pas témoigner. Même si elle témoigne, on n'accepte pas le témoignage. Une femme, elle n'est pas sous les doutes. Donc, du moment qu'on n'est pas sous les doutes, que je parle ou que je ne parle pas, ça ne change rien. Donc, je ne suis pas khayav. Elle a juré faux, c'est vrai. Elle a juré qu'elle n'a rien vu, c'est faux. C'est moche, mais elle n'a pas khayav de tous les corbanotes. Pourquoi? Parce que même si elle avait dit que je sais et que je veux témoigner, les témoignages n'auraient pas joué un rôle. Si la parole de témoin n'a aucune valeur, donc s'il jure que je ne connais rien, il n'est pas khayav korban shavuot. Alors, il est marqué dans la Mishnah comme ça. Shavuot haidut, ein noheged ele beruim lehid. La Shavuot Haïdout ne s'applique que aux gens qui sont capables de témoigner. Il est marqué dans le Mishnah, la femme, elle est dispensée. Un enfant, il est dispensé. Ou un homme qui est voleur, il est dispensé. Un homme qui a volé, il n'est pas seul de témoigner. Il ne peut pas témoigner. Donc, si un homme, est voleur, il a volé et il a vu un accident. Maintenant, l'autre, il dit, monsieur, témoignez pour moi. Et le voleur, il dit, je jure que je n'ai rien vu. Et après, il avoue qu'il a vu. Eh bien, il n'est pas tour de Corban et Shavuot Haïdout. Pourquoi? Parce que même s'il avait dit, oui, j'ai vu, mais vous savez tous que je suis voleur. Donc, vous savez très bien que mon témoignage ne vaut rien. Et donc, mais comme son témoignage ne vaut rien, automatiquement, s'il jure qu'il ne connaît rien, il n'est pas grave Shavuot Haïdout. Maintenant, la Gemara demande vers Avinanda. Nous avons posé une kushya sur cette Mishnah dans Shavuot. Les miout et maï, pourquoi la Mishnah nous dit Shavuot Haïdout en noheget el beruim lehit? La Shavuot Haïdout ne s'applique que sur les personnes qui sont reuim lehit, qui auraient pu témoigner. Et s'ils ne peuvent pas témoigner, on n'applique pas. Après la Mishnah, dans tous les cas, les femmes et les rechaïm, tous les gens qui sont disqualifiés. Alors la Gemara demande si la Mishnah elle nous a énuméré tous les cas, pourquoi la Mishnah nous dit et le berouïm lehit, pour exclure que paraoui. Mais qui a encore paraoui lehit qui n'est pas cité dans le Mishnah? Alors, la Gemara nous répondu, c'est exclu le roi. Ça veut dire quoi? C'est exclu le roi. Un roi ne peut pas témoigner. Pourquoi un roi ne peut pas témoigner? Un roi, il n'est pas sous les doutes. Pourquoi? Parce que quand on témoigne, on est obligé d'être debout. On n'a pas le droit de témoigner quand on est assis. Et témoigner assis, c'est une chutzpah. Pourquoi c'est un chutzpah?
On peut témoigner quoi? Contre lui?
Quoi?
Et est-ce qu'on a le droit de témoigner contre le roi?
Est-ce qu'on a le droit de témoigner contre le roi? Il me semble que la Gemara fait une différence si c'est une question d'argent ou si c'est une question d'une avéra. Si un roi il a mangé chazir, on a le droit de témoigner contre lui et on va lui donner malkout. Mais si un homme il accuse le roi dans une affaire d'argent, je pense que ça on ne peut pas. Mais pour malkout on peut oui. En tout cas le roi ne peut pas témoigner. Quelle est la raison qu'il ne peut pas témoigner? Parce qu'un témoin n'a pas le droit d'être assis quand il est témoin. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah va'amdu shnei ha'anashim asher ne'ariv lifnei Hashem. Les deux hommes, on parle aussi les gens qui se disputent entre eux et aussi les témoins. Amdu lifnei Hashem. ils doivent être debout devant Dieu. Quand on témoigne au Bédin, on parle devant Dieu. Et on n'est pas assis devant Dieu, on est debout. Donc le roi, il a... Quoi?
Le roi, il est toujours assis?
Sur son trône, il est assis, oui.
Il est comme toujours assis.
Ah, tu dis que le roi, quand il fait l'Amida, il est debout. Et quand tu veux boire un café, des fois, il boit debout. Oui, mais on ne l'oblige pas d'être debout. Ici, si le roi il est invité au Bédin, il vient au Bédin, il s'assoit et on commence la discussion. Et jusqu'on arrive au fameux moment où le Dayan dit, « Monsieur le roi, vous voulez témoigner, bravo, faites votre témoignage. » Et le roi, il veut témoigner assis. Alors le juge dit, « Non, monsieur le roi, vous n'avez pas le droit d'être assis. Vous témoignez devant Dieu, mettez-vous debout. » Et ces paroles sont interdites à dire à un roi, c'est chutzpah. Vous ne me parlez pas comme ça, monsieur. Monsieur le juge, vous n'avez pas à me donner des ordres. Parce que le roi, c'est une personne que personne ne peut lui donner des ordres. Seulement Dieu. Personne n'a le droit de dire à un roi, vous vous mettez debout. C'est un chutzpah. C'est un manque de kavod. Et donc, il ne peut pas témoigner. C'est un sort de témoigner. Donc, quand la Mishnah nous dit que les mi-outemai, shvot eidut se noheg ele berouin laït, c'est exclu le roi. Et si le roi il est venu au Bédin, et le roi il a dit, je jure que j'ai rien vu, revenez la casser la voiture de Shimon. Et le roi il était à côté, imagine-toi David et Melech, il est à côté, il a vu comment revenez la casser le Porsche de Shimon. Alors, monsieur le roi David, vous avez vu quelque chose? Je vous jure que j'ai rien vu. Et après, David et Melech dit, non, la vérité, j'ai vu, revenez la casser la voiture de Shimon. Alors, est-ce qu'il apporte Shvot Eidut? Non, parce que le roi a pu dire, de toute façon, si j'aurais voulu parler, vous n'aurez pas accepté, parce que le roi n'a pas le droit de témoigner, vous ne me laissez pas témoigner. Alors donc, il n'est pas tout. Ça, c'est le pérouche de Rav Papa. Rav Abba Yaakov amar le miout et mesechek bekouvia. Ça exclut un joueur d'aider. Un homme qui joue avec des dés et deux juifs qui se mettent à jouer des poker. Et après, hein, il prend les 50 euros de l'autre. Il n'est pas saoul de témoigner après, si c'est, en tout cas si c'est son métier. S'il gagne la vie avec le jeu de poker, il n'est pas saoulé d'autre. Enfin, ils ont interdit. Mais c'est Midrabanan, il n'est pas saoulé d'autre. Pas Minatora. Midrabanan, parce que c'est un vol Midrabanan. Ce n'est pas un vol Minatora, c'est un vol Midrabanan. C'est Rafaim, il considère ça comme du vol, de trafiquer comme ça, de faire sortir de l'argent de l'autre de cette manière. D'accord. Mais ce n'est pas saoul Midrabanan. Quel est maintenant le dîner? Le Messachek Bekouvia, il était invité. Le Messachek Bekouvia, qui était invité de témoigner. Et il dit, je jure que je ne connais rien. Après, il avoue qu'il connaît. Alors, on dit qu'il est pas chayav shvot eidut. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'aurait pas pu témoigner. Alors, le Gemara demande, va Messachek Bekouvia, mais ceux qui jouent avec les dés, Minatora, il est raoui de témoigner. Rabbanan hu de pasluhu. Et les chachamim, ils l'ont dû disqualifier. Mais kechaile, allez, shvoa. Et quand même, la Torah nous dit que la shvoa, elle est valable. La Gemara compare maintenant la shvoat à Eidut à la shvoat korban shvoa. Comme ça. On dit un homme qui est pas soul midrabanan de témoigner, et Minatora il est cachère de témoigner, il a juré que je ne connais pas de témoignage, tu dis qu'il n'est pas chayav korban shevoa, car de toute façon, midrabanan il n'aurait pas pu témoigner, donc la shevoa n'a aucune valeur. Ça veut dire que vis-à-vis du din de la shevoa, pour un psoul midrabanan, on lui donne le même din comme le psoul minatora. Comme la Torah disqualifie une femme de témoigner, la drabanan disqualifie un mesarek bekouva témoigner. Donc la shvoa n'a aucune valeur. Donc on voit qu'un issur midrabanan, c'est comme un issur minatora vis-à-vis de la shvoa. Donc la Gemara revient ici sur Esh Lakish. Qu'est-ce qu'on avait dit ici pour korban shvoa? Un homme, il a juré qu'il ne mange pas un demi-kezaït chazir. Alors, un homme qui a dit que je ne mange pas un demi-kezaït chazir, est-ce que cette shvoa est valable ou pas? Alors, la Gemara nous a dit que cette shvoa est valable. S'il aurait juré, je ne mange pas un kazaï, trazir, ça t'a déjà juré au Harsinaï, donc ça n'a aucune valeur. Donc, s'il a mangé un kazaï, trazir, ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé sa chevoie, parce que la chevoie n'a aucune valeur, parce qu'il a déjà juré au Harsinaï. Mais Resh Lakish lui dit, un homme qui a juré que je ne mange pas un demi-kazaï, trazir, étant donné que la Torah, elle a permis de manger un morceau de chazir, malgré que les rabbins, ils ont interdit de manger, donc la chevoie, elle est valable. Alors, comment on nous dit, si la chevoie, elle est valable, donc le Messarek Bekouvia, aussi, sa chevoie aurait dû être valable. Quand le Messarek Bekouvia, que Minatora, il est cachère de faire un témoignage, quand lui jure que j'ai rien vu, étant donné que Minatora, il aurait pu témoigner, sans les rabbanan, ils ont interdit de témoigner, mais Minatora, il aurait pu témoigner, donc la chevoie a une valeur. Donc, si la chevoie a une valeur, il aurait dû être hayav.
Mais ça, c'est pour les personnes. Ce n'est pas pour l'objet. C'est pour les personnes. C'est les personnes qui sont midera banane, qui sont assur midera banane, là. Et oui. On les compare, mais ce n'est pas pour la transgression. Ça n'a rien à voir, les deux trucs.
Pourquoi ça n'a rien à voir? La comparaison de la Gemara, elle est comme ça. Ici, on nous dit à Messarek Bekouvia, il est interdit pour lui de témoigner midrabanan. Et maintenant, il a fait une chevoie quand j'en sais rien. J'ai rien vu. Mais Minatora, monsieur, vous aurez pu témoigner. Donc, quand vous dites, vous ne savez rien vis-à-vis de la Torah, vous avez fait une chevoie, apporté une chevoie à Taïdout. Alors, il dit, oui, mais les rabbins, ils m'ont interdit de témoigner, donc ma chevoie n'est pas valable. Eh bien, on voit que quoi? La chevoie n'est pas valable parce que les rabbins, ils ont interdit. Ça veut dire que le din de Rabbanan reçoit un din Minatora. Pourquoi le din de Rabbanan reçoit un din Minatora? Parce que c'est marqué l'autre assour. Parce que la Torah, elle a demandé d'écouter ce que les Chachamim racontent. Quand la Torah nous dit ne quittez pas ce que les Chachamim disent. Donc si les Chachamim ont dit le Messager Bekouya n'a pas le droit de témoigner, on considère comme si la Torah l'avait dit. Et c'est pour ça que quand tu fais une chevoie, que le Messager Bekouya que je ne connais rien, ça n'a aucune valeur parce que si les Chachamim m'ont disqualifié, c'est là que la Torah m'a disqualifié. Comme je te dis qu'elle est féminatorale, le problème est réglé. Donc, la Torah demande la même chose ici. Un homme qui dit, je jure que je ne mange pas un demi-chazir, mais ils ont interdit un demi-chazir. Ils ont interdit de manger un demi-chazir. Donc, c'est comme tu jures contre la Torah, parce que le din de Rabbanan ressent din minatora.
Ils auraient pu sortir. Et donc, on aurait pu sortir n'importe quel din, que tous les dinim, l'idée Rabbanan, c'est aussi assur midoraita. Une phrase directe, pourquoi on sort juste ce din que on sort une Mishnah, on complique l'histoire. C'est étonnant, juste sur les témoins. Parce qu'on a parlé de témoins, alors on parle de témoins. Je ne comprends pas pourquoi juste ce din. Parce que le Midera Banane, que c'est Assur Midoraita, Midera Banane qui n'est pas écouté, tout le monde sait ça.
Non, la question, elle est, je vois un serment sur quelque chose qui est Midera Banane, est-ce qu'il a une valeur de serment? Un homme qui jure que je ne transgresse pas Issour de Rabbanan. Est-ce que c'est un serment ou pas? Vis-à-vis du reste de la Torah, on sait qu'il y a des choses Chachamim ont interdites et la Torah veut qu'on respecte les Chachamim. Bon, ça c'est connu. Maintenant, on parle vis-à-vis d'un serment. Quand un homme jure pour la Torah ou contre la Torah, ça n'a aucune valeur. Tu jures que tu ne vas pas manger Chazir ou tu jures que tu vas manger Chazir, ça n'a aucune valeur. Tu as déjà mis ton serment racine. Maintenant, quand un homme jure sur un sujet qui est chachamim, ils ont interdit. Est-ce que cette chevoie, elle a une valeur ou pas? Pour ça, l'agmara compare korban chevoie à chevoie taïdou. À l'agmara, on dit que les choses sont différentes. Shani hatam, là-bas, c'est différent. La amakra, parce que la pasuk, il dit, im lo yagid, menasa avono, s'il ne parle pas, il portera le péché. Et lui, le Maasé ne peut pas parler. L'agman nous dit comme ça. Le Maksham, il s'imaginait que pourquoi ce Messarek Bekouvia qui jure qu'il ne sait pas, pourquoi la chevoie n'a pas de valeur? Parce que la Torah, elle a interdit de témoigner. Donc, le Ra'al demande, mais le Sachek Bekouvi à la Torah, il a permis. Donc, le Marchand, il s'imaginait que quand la Chachamim a interdit, il se reçoit un din de Mina Torah. La Gemara nous dit non. En vérité, quand Chachamim a interdit, ça ne reçoit pas une valeur Mina Torah. C'est qu'un din de Rabbanan, ce n'est pas Mina Torah. Mais ça provoque une pratique. Ça veut dire, la pratique du Bedin, c'est de suivre ce que le Chachamim raconte. Donc, si un Messachek Bekouvia au Bedin dit, mon Rav Rabataï, je veux lui témoigner. Le Bedin va dire, non, monsieur, Midrabanan, vous êtes disqualifié, on ne peut pas vous écouter. Donc, dans la pratique, on ne va pas les laisser parler. Donc, Memele, il peut échapper à Shvuat Haïdout. Pourquoi il est pas chayav de faire le Korban Shvuat Haïdout? Pas parce qu'il est pas saoul, c'est grave le fait qu'il est pas saoul. En vérité, il est pas saoul que Midrabanan. Donc, Minatora, il n'est pas pasoul. Mais dans la pratique, tous les Batedinim, ils suivent le Rabbanan. Et comme ils suivent le Rabbanan, le Batedin dit, monsieur, vous êtes un Masari Bekouvia, nous ne pouvons pas vous laisser parler. Alors, on me dit, ah bon, Baruch HaShem, il ne me laisse pas parler. En vérité, ce n'est pas si grave, je suis pas soumis de Rabbanan. Mais dans la pratique, il ne me laisse pas parler. Donc, quand je jure que je n'ai rien su, ce n'est pas grave. Parce que même, parce que je n'ai pas provoqué une perte d'argent. La philosophie de Shvuat Haïdout, c'est que je me suis abstenu de témoigner, j'ai provoqué une perte d'argent. Parce que j'ai refusé de témoigner, c'est pour ça que l'autre n'a pas pu récupérer la réparation des servatures. Donc, je fais tort à mon copain de lui avoir fait perdre indirectement d'argent. Et comme je suis un Messahir Bekouvia, et le Bedi ne me laisse pas parler, donc c'est fini, il ne me laisse pas parler, donc je ne suis pas tour de témoigner. Quand je n'ai pas tour de témoigner, quand je jure que je sais ou je jure que je ne sais pas, ça n'a aucune valeur. C'est pour ça que cette Shvuat Haïdout, elle tombe, elle n'est pas celui. Mais ici, on ne parle pas de Bedin. Ici, un homme dit, je jure que je ne mange pas un demi-kezaït razir. Donc, étant donné que la Torah, elle permet de manger un demi-kezaït razir, le Firesh Lakish, même que Rabbanan, ils ont interdit, mais la Torah, elle a permis. Quand un homme dit, je jure que je ne mangerai pas un demi-kezaït razir, cette Shvuat, elle a force de loi. Comme est la force de loi, si après tu as mangé un demi-kezaït, eh bien tu es chayav le korban shevoua. Ici, tout ce qui est mis de korban shevoua, si c'est mis de rabanan, la shevoua est l'invalidité. Mais il y a de témoignage, si tu es disqualifié mis de rabanan, en fin de compte, les rabbanim ne te laisseront pas parler. Comme ils ne te laisseront pas parler, comme si tu jures que tu ne connais rien, tu n'aurais fait aucun avla. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Bon, on va se rencontrer à 2h.
Mais en bon, j'ai une question. Vous m'écoutez là?
Ouais, en bon, j'entends pas bien.